Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Martin Kelling et David Achaka sur la mise en onde à la présentation de cette rétrospective de l'actualité. Jean-Baptiste Béléa, tout de suite les détails. Début ce mardi, dit dialogue entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne dans le but de renouer les relations saines. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et développement a insisté sur la rapidité du processus de dialogue entamé pour l'intérêt du pays. Peuple burundais. Quant aux représentants de l'Union européenne, l'essentiel sera le cheminement de ce processus. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi reste préoccupé et estime que ce n'est pas le bon moment pour rétablir les rapports de coopération de l'Union européenne avec le gouvernement burundais. Selon le porte-parole de ce mouvement, le professeur Libéran Nibashirakandi, le gouvernement burundais devrait relancer un vrai dialogue avec tous les acteurs politiques, les médias et la société civile afin de se mettre d'accord sur les mécanismes de retour de la paix et de la stabilité. On l'écoute.
Le mouvement d'action patriotique MAPURUNDIBUHIRE a adressé une correspondance à la présidente de la Commission de l'Union européenne. Dans cette correspondance, nous rappelons les nombreuses autres correspondances qui ont été adressées à la même présidente et dans lesquelles nous rappelions les conditions de retour de la paix et de la sécurité au Burundi. Et nous avons appris le lancement d'un dialogue entre l'Union européenne et le gouvernement burundais, dialogue qui a pour objectif de suspendre notamment les sanctions qui ont été prises en 2015. Conformément à l'accord de Cotonou, notamment l'article 96 stipule clairement que l'Union européenne ne peut pas coopérer avec un pays qui viole les droits de l'homme, qui torture, qui tue. Et je rappellerai que c'est le Parlement européen qui a pris la décision de prendre des sanctions envers le Burundi, conformément à cet article 96 de l'accord de Cotonou. Quand nous avons appris alors qu'un dialogue sera lancé aujourd'hui, MAPURUNDIBUHIRE a décidé de s'adresser à la présidente de la Commission de l'Union européenne et bien sûr aux négociateurs, notamment les ambassadeurs du Royaume de Belgique, de la République française, de l'Allemagne et des Pays-Bas, et bien sûr aux représentants de l'Union européenne à Bujumbura, ont reçu une copie de cette correspondance. L'objectif de cette correspondance, c'était de rappeler aux négociateurs de l'Union européenne qu'ils doivent respecter à la lettre l'accord de Cotonou, et en particulier l'article 96, surtout que les raisons pour lesquelles le Parlement européen a pris les sanctions contre le Burundi sont toujours là. Les violations des droits de l'homme sont d'ailleurs intensifiées ces 6 derniers mois.
Pas question de renouer les relations avec le Burundi tant que les conditions exigées ne seront pas remplies. Les députés européens ne passent pas par 4 chemins. Dans une lettre adressée aux hauts représentants de l'Union européenne aux affaires étrangères et la sécurité, ces élus insistent sur un contexte toujours caractérisé par des massives violations des droits de l'homme, dont des assassinats, arrestations arbitraires ou encore l'absence d'une justice indépendante et de la liberté de la presse. Bertrand Guendakoulio pour plus de précisions.
La lettre signée par 43 eurodéputés commence par rappeler les raisons pour lesquelles l'Union européenne a décidé de prendre des sanctions économiques contre le Burundi en suspendant son financement en 2016. Selon le texte, il était reproché aux autorités burundaises de ne pas respecter leurs engagements internationaux, notamment dans les domaines de respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et la bonne gouvernance. Selon les députés, rien de tout cela n'est respecté jusqu'aujourd'hui, démontrant ainsi que les raisons qui ont poussé à sanctionner le Burundi sont toujours là. Selon eux, les assassinats, les disparitions forcées, les viols, les arrestations arbitraires, les discours de haine, des crimes commis principalement par certains agents des forces de l'ordre et les émonnaies la coulée, la Ligue des Jeunes, qualifiée 2010 par l'ONU et soutenue par les autorités au plus haut niveau de l'État, y compris le chef de l'État en personne. Il rappelle également qu'il y a des médias qui ont été détruits par les services de l'État, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme qui font l'objet de mandats d'arrêt et des organisations de la société civile qui ont été injustement fermées. Ainsi, ils exigent que les relations ne se normalisent que si les assassinats s'arrêtent, que ceux qui ont été forcés à l'exil rentrent en toute dignité et sécurité, que les médias détruits soient réhabilités et dédommagés, que les organisations de la société civile reprennent leurs activités, que la persécution des opposants s'arrête, que la liberté d'expression soit garantie, des conditions parmi de nombreuses d'autres pour que ces relations puissent reprendre.
Les médias burundais en exil, à savoir la RPIA, la Télé Renaissance et l'Union burundaise des journalistes, sont prêts à dialoguer avec le pouvoir de Gitega. Innocent Mohozi, directeur de la Télé Renaissance, indique qu'entrer les dialogues ne devrait pas concerner les médias uniquement et demande à ce pouvoir d'initier un dialogue inclusif. Il précise que dans un pays sans liberté d'expression et liberté publique, il serait impossible à ces médias de travailler librement. Suivez Innocent Mohozi.
Si la centaine de journalistes ont fui le pays, c'est parce que les gens avaient un problème sérieux de sécurité. Les gens avaient peur d'être tués, les gens avaient peur d'être emprisonnés abusivement. D'autres ont même été tués, certains d'entre nous ont connu la torture. Donc c'est une réalité, la sécurité des gens. Après cela, la loi sur la presse a été changée, elle est devenue plus restrictive, la liberté de presse n'est plus garantie. L'engagement que les gens signent avec le CNC restreint encore le peu de liberté qu'il y a. La liberté d'expression, des milliers de gens qui sont en prison, pour avoir exprimé leur opinion politique, les centaines de milliers de ceux qui sont en exil, les disparus, les assassinés, etc. Donc il y a des questions qui nous concernent de la même manière qu'elles concernent d'autres Burundais. Donc nous disons qu'il faut vraiment un dialogue qui soit un peu plus élargi que celui qui pourrait avoir lieu avec nous. Nous sommes disposés à avoir ce dialogue, mais nous sommes très conscients que nous faisons partie de l'ensemble national. Nous ne pouvons pas être libres si tous les autres citoyens ne sont pas libres.
Au niveau des médias, concrètement, qu'est-ce que vous demandez?
Au niveau des médias, nous demandons d'abord à dialoguer, à parler de ce mandat d'arrêt qui pèse sur certains d'entre nous, et les collègues qui n'ont pas de carte de presse, qui sont restés au pays, qui ne peuvent pas exercer. Donc c'est des choses comme cela. Il y aura évidemment des problèmes liés à la destruction de nos équipements, la destruction de nos bâtiments, les conséquences qui sont derrière cela, qui sont multiples. Mais j'imagine que cette question arrivera quand on aura débrayé des questions beaucoup plus, enfin, d'autres questions qui sont beaucoup plus sensibles, comme celle de la sécurité, etc.
Le gouvernement du Burundi se félicite qu'il y ait des institutions qui garantissent une justice équitable, la bonne gouvernance et la paix à tous les Burundais. Cela est contenu dans le discours à la nation du président Évariste Ndayishimiye de ce jeudi, à la veille du 30e anniversaire de la charte de l'unité nationale célébrée chaque 5 février. Cependant, le parti prenant de l'opposition ne partage pas la même satisfaction. Professeur Charles Litigé dénonce une justice qui est au service du parti au pouvoir et qui est dans les mains de l'exécutif. Il demande plutôt que le régime garantisse une justice libre des Veriens Basicam.
C'était lors de son discours à la nation de ce jeudi. Le président Évariste Ndayishimiye affirme que l'unité au Burundi est une réalité, que tous les Burundais vivent en harmonie. Le président est revenu sur l'importance de l'accord d'Arusha qui a aidé les Burundais à se réconcilier. Selon lui, son gouvernement est guidé par cette unité.
L'accord d'Arusha était un remède pour l'unité des Burundais. Parmi les priorités, il fallait que le pays ait un père de la nation qui ne représente pas une ethnie, les services de sécurité au service de tous et une justice équitable. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous n'avons plus des partis à base d'ethnie. Les Burundais cohabitent sans crainte. Cette fête arrive au moment où nous vivons pleinement dans l'unité.
Du côté de l'opposition politique burundaise, le président du parti Iprona de l'opposition regrette plutôt la situation socio-politico-économique qui prévaut au Burundi à cause d'une mauvaise gouvernance imposée par le parti au pouvoir. Charles Nditije donne quelques exemples qui montrent que le régime en place n'applique pas les valeurs de l'unité qui devraient guider les Burundais.
Les droits de l'homme sont bafoués, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les emprisonnements arbitraires, et les divisions dans les différents corps sont légion. Le CNDD-FDD ne croit pas du tout à l'unité nationale. Et pour preuve, le président du CNDD-FDD, on dit qu'il provient des anciens combattants. Et ces anciens combattants sont des Hutus. Donc on ne peut pas diriger le CNDD-FDD si on n'est pas n'est pas un ancien combattant, donc si on n'est pas Hutu. Donc c'est un exemple qui montre qu'ils mettent en avant l'ethnisme dans la direction du parti, même dans la direction de l'État. En ce qui concerne la justice, et la justice est fondée complètement à l'exécutif. On voit les jugements qui sont prononcés.
Cette journée arrivée dans un contexte d'un processus de réconciliation entre le gouvernement du Burundi et son principal bailleur de fonds qui est l'Union européenne, après 5 ans de rupture, à l'origine des sanctions contre le Burundi, était principalement la violation grave des droits de l'homme et la mauvaise gouvernance. Cette journée arrive également au moment où différentes associations de la société civile dénoncent la dépendance de la justice, des exécutions extrajudiciaires et bien des cas de détournement des biens publics, et cela dans une impunité totale.
Christa Kaneza, accusée d'avoir tué son mari, a été ordonnée d'être libérée provisoirement dans la matinée de ce mercredi par le tribunal de grande instance de Mouha. Mais cela n'a pas été concrétisé. Elle avait été arrêtée le 19 janvier par la police et conduite dans la prison centrale de Mimba. Le lendemain, en date du 20 janvier 2021, la police, à travers son porte-parole, avait sans équivoque conclu que cette veuve qui avait planifié et mis en exécution l'assassinat de son époux Thierry Kubwimana. L'injustice faite à Madame Christa Kaneza est une situation qui est en train de dévoiler un conflit qui existe entre les plus hautes autorités du Burundi. Ce sont les propos de Pacifique Nahazuel, l'un des défenseurs des droits de l'homme au Burundi, après opposition à la libération provisoire de cette jeune mère. Pourtant, ce défenseur des droits humains reste optimiste. La justice finira par arrêter les auteurs qui se cachent derrière ce dossier. Suivez Pacifique Nahazuel.
C'est au moment où les autorités de la prison de Mimba étaient en train de compléter les formalités de libération de Madame Christa Kaneza qu'a surgi l'officier du renseignement Alfred Innocent Museremu qui est venu interdire cette libération. Alors il y a lieu de se poser ici plusieurs questions. C'est donc à Alfred Innocent Museremu d'exécuter les ordres du parquet. Ce n'est pas au parquet d'obéir aux ordres du policier. Et c'est un policier qui arrête une décision de justice. Ceci est inconcevable dans la logique de la loi. La seule possibilité qui aurait expliqué que Christa Kaneza ne soit pas libéré, ça aurait été que le procureur de la République, Amoura, ait interjeté appel de la décision prise par les juges. Or, c'est le procureur lui-même qui est allé délivrer l'ordonnance de libération, ce qui signifie que le procureur n'avait pas interjeté appel. Et selon des informations confidentielles, la volonté de la libération de Mme Christa Kaneza est venue directement de la présidence de la République et de la ministre de la Justice. Ici, on revient encore une fois à la même question, est-ce que Alfred Innocent Museremu est plus fort que le président de la République, est plus fort que la ministre de la Justice? Cela signifie plutôt qu'il y a une autre forte main derrière Alfred Innocent Museremu. Et qu'au sommet de l'État, il y a une opposition très importante entre le président de la République et une autre autorité que nous ne connaissons pas, mais qui est en train de prendre ce genre de décision. Et j'espère qu'un jour, la justice finira par frapper les assassins.
Toujours au chapitre de la justice, la peine à perpétuité en dédommagement d'environ 10 milliards de francs burundais. Le procès prononcé par la Cour suprême de Bujumbura contre une trentaine de personnalités accusées d'avoir participé au putsch manqué de mai 2015. Les personnes condamnées font partie des acteurs politiques, les militaires, acteurs de la société civile ainsi que des journalistes. Ce procès a été rendu en l'absence totale des concernés. Ils sont tous en exil et d'autres déjà décédés. Selon Frédéric Mavrinvila, le gouvernement burundais essaie de renouer les liens avec l'Union européenne et celui-ci avait exigé au gouvernement de reprendre les négociations avec l'opposition. Cette décision vient prouver que rien n'a changé par rapport à l'ancien régime et demande au président Évariste Ndayishimiye de prendre une décision honorable sans se fier aux directives de son parti, le CNDD-FDD.
Et pour moi, le premier commentaire, c'est d'abord relater le contexte dans lequel nous sommes. L'État du Burundi est en train de chercher comment négocier avec l'Union européenne. Et l'Union européenne, dans l'entretemps, est en train d'observer la situation. Et j'ai une lettre où nous avons 44 députés qui viennent d'être représentants de l'Union européenne qui est aussi le vice-président de la Commission de l'Union européenne, Monsieur Joseph Borrell Fontenelle. Et dans cette lettre, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il constate qu'il faut qu'il y ait reprise du dialogue, mais que cette reprise n'est pas possible, pour autant que le gouvernement ne semble pas être prêt à accepter un tel dialogue. Donc, et surtout parce que la situation des droits de l'homme ne s'améliore pas dans le pays. Au même moment, dans cette lettre, il est demandé de laisser tomber ses mandats d'arrêt. Et donc, c'est une situation, un contexte qui explique le comportement du gouvernement qui veut d'abord condamner pour refuser qu'il y ait dialogue avec ces gens-là. C'est une attitude, évidemment, qui ne veut rien signifier. Alors, deuxième élément, c'est que cet argent exigé est une spoliation officielle des familles concernées au nom de la loi. Et la justice, aujourd'hui, on voit qu'elle est devenue un instrument de répression de l'exécutif. Voilà, donc c'est un procès qui n'a rien de juridique, mais un procès qui est tout à fait politique, quant au fond et quant à la forme. Voilà ce qu'il faut souligner. Et ici, on peut demander au chef de l'État de se montrer capable de régler des problèmes qui assaillent les Burundais.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité que j'ai eu le privilège de vous présenter. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche chez vous. Au revoir.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.